Merci beaucoup. J'ai le contrôle. Je ne dis pas que j'ai un contrôle, moi. Non. Bien, je dois vous dire au départ que le message a été construit et c'est une chaîne. Tout ce qui s'est dit à Neshkadat, je ne vais que répéter ce qui s'est dit depuis le matin. Et lorsque je me suis installé chez moi pour faire la prédication, pour faire préparer le message, je n'avais aucune idée de ce qui s'était pour se faire durant la célébration. Mais tout est en lien. Et ça m'épate de voir comment l'Esprit peut répondre, parfois peut nous donner des choses au fur et à mesure. L'amour de Dieu, sujet très difficile à traiter car c'est une histoire sans fin. Où est-ce que va l'amour de Dieu? On entend dans notre société toutes sortes de blâmes qui blâment Dieu de toutes sortes, pour toutes sortes de raisons. Et je me rappelle lors de l'accident où M. Jean Lapierre a péri aux Îles-de-la-Madeleine, il y a un homme qui avait lancé, il avait fait une lettre, puis il blâmait Dieu de la mort de Jean Lapierre. Je savais, il n'y a aucune raison pourquoi, là, mais ce qu'il disait, ça ne faisait aucun sens. Mais lui, il jetait son dévolu sur Dieu. Finalement, quand tu n'as personne à accuser, tu accuses Dieu. Beaucoup d'éditorialistes accuse Dieu pour les guerres, les fléaux et toutes sortes de choses. Mais notre société a démocratisé l'amour de Dieu. Tout le monde a une opinion sur l'amour de Dieu. Tout le monde, les gens sentimentalisent l'amour de Dieu. Ils la déforment de toutes les manières. L'idée que les gens ont de l'amour de Dieu est beaucoup plus et beaucoup plus selon ce qu'ils perçoivent que la réalité elle-même. Ce que désire le monde aujourd'hui, c'est de l'amour qui fait du bien, l'amour qui fait mon affaire, l'amour qui me satisfait. L'amour, cette belle émotion. Si vous posez la question, si vous allez dans la rue, vous posez la question, est-ce que Dieu vous aime? Ils vont dire, ben oui, Dieu, il m'aime, c'est sûr que Dieu, il m'aime. Dieu, il t'aime toi, Dieu aime elle, Dieu aime lui, Dieu aime tout le monde. Ils ont tous une opinion sur l'amour de Dieu sans vraiment savoir exactement la signification de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est réellement? Même dans les années 80, un sondage présentait, il devait choisir, est-ce que vous préférez voir Dieu comme un ami ou comme un roi? Et c'était majoritaire, tout le monde voulait voir Dieu comme un ami. Imaginez maintenant s'il vous disait un ami ou un juge. Personne ne disait que c'est un juge, Dieu. C'était surtout un ami. Et même jusqu'à la rigueur, jusqu'à un chum. Il y avait cette proximité-là. Les gens aujourd'hui ont énormément de misère à croire à l'amour de Dieu, à l'amour, et encore moins à sa justice, encore moins à sa bonté, encore moins à son omniscience, son omnipotence, tous les attributs de Dieu. Les gens ont beaucoup de misère. C'est normal. Les gens ne connaissent pas Dieu et ne sont pas connus de Dieu. Mais c'est encore plus tragique parce que beaucoup de chrétiens sont influencés par ces pensées. Beaucoup de chrétiens voient l'amour de Dieu selon leurs émotions, selon leurs sensations, selon leurs feelings. Et cette manière de comprendre l'amour de Dieu rend difficile la compréhension de cette doctrine-là. Dieu est amour. Et on l'entend dans la parole de Dieu, et c'est vrai. Dieu est amour, un sujet inépuisable. On ne peut pas mettre la définition de Dieu est amour dans une petite boîte en disant « Voici l'amour de Dieu et je vous la présente. » On aura toujours quelque chose à dire. On aura passé de l'éternité pour découvrir tout l'amour que Dieu a et tout l'amour que Dieu a eu. Et lorsque j'entendais ce matin que Dieu a mis toute son affection sur son Fils, c'est énorme. Quand Dieu aime, qu'il met toute son affection, ça doit être gigantesque, qu'est-ce qu'il met sur son Fils. L'amour de Dieu peut se présenter de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de pouvoir apporter une approche. J'aimerais en faire ressortir cinq. L'amour de Dieu, d'abord, est évident pour son Fils. Ensuite, l'amour de Dieu pour sa création. L'amour de Dieu pour le monde. L'amour de Dieu pour ses élus. Et finalement, l'amour de Dieu pour ses enfants. Si on regarde l'amour de Dieu pour le Fils, c'est l'amour d'un père envers un fils. Et l'amour de Dieu, dans toute la parole de Dieu, vous pouvez prendre le terme que vous voulez, Dieu va l'utiliser pour envers son fils. Il va dire agapé, il va dire philéo. Ça va? Ça va? Tu sembles inquiet. OK? Et l'amour de Dieu est à la base de tout ce qui existe comme amour dans ce monde. C'est l'amour, tout part de l'amour de Dieu. De connaître l'amour entre le Père et le Fils et de l'appliquer dans notre vie donne à la vie chrétienne une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne qui rouvre, qui grandit, qui fait quelque chose. C'est particulier entre le Père et le Fils, mais j'aimerais pour tout de suite arrêter là et revenir à la fin parce que c'est un sujet trop important pour le négliger, mais je vous en parle à la fin. La deuxième chose que l'on voit, c'est... C'est l'amour de Dieu pour sa création. Quand Dieu a créé la terre, tout l'univers en 7 jours, il a dit, à chaque jour, il disait, Dieu vit que cela était bon. Il disait même que cela était très bon. Quand Dieu lui-même dit que c'est bon, à quelque part, ça a une certaine valeur, ça a énormément de valeur. Il va dire au 7e jour qu'il se reposa. Naturellement, Dieu n'était pas fatigué. Il ne s'est pas reposé en disant, oh, grosse semaine, hein? On va se reposer un peu aujourd'hui. Ce n'était absolument pas dans ce sens-là. C'est plutôt qu'il a dit qu'il était satisfait. Il était vraiment content de ce qu'il avait fait. Et il a aimé sa création. Même Christ lui-même va mentionner que Dieu nourrit les oiseaux. Il revêt l'herbe des champs. Cette semaine, j'ai 2 arbres fruitiers dans ma cour, puis j'ai un pommier qui a tellement de pommes après qu'il s'est déraciné. Puis lorsque je regarde ça, puis je me dis, c'est l'amour de Dieu qui a permis que j'aie ces fruits-là. C'est l'amour de Dieu qui fait, à quelque part, que lorsque je vais à l'épicerie, qu'il puisse avoir autant de choix, autant de choses devant moi. Tout vient de l'amour de Dieu, une création immense. Je me rappelle, lorsque j'étais faire un voyage aux États-Unis, j'ai fait des parcs nationaux américains, et puis devant les spectacles, moi et mon épouse, on s'est assis sur un banc pour ne pleurer d'émotion. Tellement que le paysage était beau. J'ai pensé vous emmener juste une photo. Juste une photo de... J'en ai pris 2000. Juste une photo. Et c'est le gigantesque, la beauté du spectacle. Vous allez remarquer juste à la base, là, c'est mon véhicule qui est là. C'est immense. Et la création de Dieu est de toute beauté. Dieu a aimé sa création. Et Dieu, il l'a fait parfaite. Jusqu'au péché. Lorsque le péché est arrivé, il a arrêté de se reposer. Et Dieu a commencé à travailler. Le péché a fait énormément de choses. Un autre point, l'amour de Dieu avec le salut pour ce monde perdu. Excusez, vous ne me perdez pas quand même, mais je reste ici, sauf que j'ai soif. Et je me permets de boire. L'amour de Dieu avec le salut pour ce monde perdu. Le meilleur texte qu'on peut trouver, c'est Jean 3,16. Hein? Je n'ai même pas besoin de le dire, vous pourriez le dire vous-même. Jean 3,16. Plus fort que ça, là. Voilà, tous ensemble. Il a aimé le monde. Il a aimé ce monde perdu, ce monde rebelle. Il l'a aimé. Il a même dit à quelque part, je vais être la solution à ce monde rebelle. Ce monde qui se rebelle contre moi, je vais être la solution en mettant de l'amour. Je vais réconcilier. Et il va même aller plus loin. Il va insister. Il va patienter. Il va donner du temps. Il va donner d'opportunités. C'est quand même lui qui dit à quelque part, « Allez par toute la terre, annoncer mon plan de salut. » Il nous dit à quelque part dans la grande commission, « Ne vous relâchez pas. Évangélisez. » C'est bien ce que notre frère disait ce matin. Les fermiers à Québec, le gros effort d'évangélisation, c'est ce que Dieu demande. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il insiste. À quelque part, il ne veut pas que le monde se détruise. Ils veulent qu'il change d'idée. Et c'est ce même Dieu dans l'Ancien Testament. Il tenait le même discours qu'en Ézéchiel. « Dis-leur que je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous? » Et ce Dieu d'amour qui ne veut pas que le monde périsse, mais Dieu veut qu'il fasse le bon choix. Lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons les vertus de Dieu, nous sommes une réponse à l'amour de Dieu pour l'univers, pour ce monde perdu. Et c'est une bonne raison de le faire. L'amour particulier, effectif et sélectif envers ses élus. Dieu a placé un peuple sur la terre, Israël, qu'il a aimé. Il a aimé parce qu'il a décidé de l'aimer. Il a dit, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Ce n'est pas parce que vous êtes fin, beau, ce n'est pas parce que vous êtes gentil, ce n'est pas parce que vous avez des qualités quelconques. C'est parce que moi, j'ai décidé, et Dieu parle, il dit, ce n'est pas moi, là, mais Dieu va dire, c'est parce que j'ai décidé de mettre mon affection sur vous. J'ai décidé de vous aimer, comme un peuple particulier. Il va dire aussi dans Deutéronome, l'Éternel s'est attaché pour les aimer comme vous le voyez aujourd'hui. Et cet amour-là, pour le peuple d'Israël, est encore présent aujourd'hui, malgré toutes les erreurs qui peuvent se produire. Il va même, si on regarde vis-à-vis les autres nations, il va dire dans Malachie, « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésau. » Il a un amour particulier pour son peuple. Et on voit le partage. Et il y a son peuple qui met à part des autres peuples. Même chose dans le Nouveau Testament. Christ a aimé l'Église, et c'est son peuple, c'est ses élus. C'est un amour particulier. C'est un amour qui appartient à l'Église et que Christ a pour l'Église. Ce n'est pas un amour qui partage à tout le monde, à tout vent. Il y a une différence entre l'amour du monde et l'amour pour l'Église. Et Dieu en voit une différence. L'amour particulier. Dieu aime l'Église d'une façon particulière. Et il veut même, pas juste aimer, aimer quelqu'un, c'est pas juste dire « je t'aime », mais il veut la transformer, il veut la faire paraître glorieuse, sans rides, sans tache, sainte, irrépréhensible. Et il veut le faire sans relâche. Son Église est vraiment le sujet de son amour. On voit que Dieu a un amour, finalement, un amour de Dieu qui est dirigé vers ses élus, vers chacun de nous, vers ses enfants, d'une manière providentielle et conditionnelle, conditionnée par l'obéissance. On disait ce matin, avec raison, que l'amour de Dieu, elle est inconditionnel. C'est vrai. C'est vrai pour les quatre premiers points. Mais ce point-là ici, Dieu va développer son amour envers celui qui est obéissant. Il va dire dans Jude 1, 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Si Jude prend la peine de l'écrire, c'est peut-être parce que c'est possible que vous ne soyez pas, que vous ne maintenez pas dans l'amour de Dieu. Christ lui-même en parle dans Jean 15. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Dieu a établi un système d'amour, mais nous avons une certaine responsabilité de demeurer dans cet amour. À un moment donné, j'écoutais une jeune femme qui discutait aussi avec un jeune homme, puis il dit, « Je peux bien faire ce que je veux, c'est pas grave, Dieu, il m'aime pareil. » Tu sais, je peux faire n'importe quoi, Dieu, il m'aime. Puis il me dit qu'il va toujours m'aimer. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que vous ne regardez pas là à la relation que vous avez avec Dieu. Dieu va toujours nous aimer, et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet amour-là? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de tout cela? Dieu, Christ nous dit ici, si vous gardez mes commandements, si vous avez de l'obéissance, un peu comme relation parent-enfant. Une relation dans un climat d'obéissance et de respect dans une maison est agréable pour les parents autant que pour les enfants. Une relation qui se développe, qui grandit, un climat de confiance qui s'établit. Et là, on peut aller plus loin. À l'inverse, une relation dans la confrontation à répétition, il n'y a rien qui se développe. Qu'est-ce qui se développe? C'est de la frustration, de la méfiance, de la réticence. Je n'irai pas aussi loin. Je ne pourrai pas lui accorder certaines choses. Je ne pourrai pas lui donner certaines choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un climat d'obéissance. Ce n'est pas un climat de respect. Et le chrétien qui n'obéit pas, qui décide de ne pas obéir, c'est la même chose. Dieu ne peut pas aller aussi loin dans son amour. Il ne peut pas révéler son amour autant pour une personne qui décide de ne pas obéir à Dieu. Dieu tenait le même discours avec Israël dans Exode et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est le même Dieu. Et il y avait la même approche vis-à-vis son peuple. Dans les psaumes 103, la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Dieu a quelque part a affaire avec notre attitude. Il veut voir de nous une bonne attitude, mais il veut, ça a une récompense, cette obéissance-là. C'est un amour qui se développe, c'est un amour qui progresse. C'est vrai que Dieu a un amour inconditionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pour ce qui est de la relation, c'est un amour conditionnel. Cet amour-là va se développer dans la mesure de notre implication. Il est important de comprendre quelle est la relation que le Fils établit avec le Père. Les principes établis dans le passage qui va nous occuper tout à l'heure nous amènent... Je suis coupable de quoi? Là? De micro? Ah, la barbe trop longue. Hein? Oui, je sais, il faudrait que je la coupe, mais je ne veux pas. Bien. On regarde dans Jean au chapitre 5. On voit que Christ nous parle de la relation avec son Père. Il nous révèle énormément de choses. Pour vous mettre dans le contexte, Christ a guéri un paralytique sur le bord de la piscine de Bethsaïda. Et il dit, prends ton lit et va-t'en. Naturellement, les pharisiens qui étaient là lui reprochent à cet homme-là de prendre son lit une journée de sabbat. Et ils vont reprocher aussi à Jésus de se faire Dieu. Énormément de reproches pour des bagatelles. Imaginez, la personne qui est paralytique, qui ne marche pas, et Dieu le guérit gratuitement, sans rien demander. Il dit, « Hey, tu n'as pas l'air de traîner ton lit. » Quel détail. Quelle insignifiance. Mais L'approche de Jésus ne regarde pas le ridicule de leur loi. L'approche de Jésus vis-à-vis, il leur enseigne, il leur parle de ce qui est important, la relation avec son Père, qui est en lien direct avec le sabbat. Christ respectait ce que Dieu voulait, ce que Dieu demandait. Jésus ne s'est pas proclamé Dieu au-dessus de Dieu là, à ce moment-là. Il était fils de Dieu, car il faisait le travail que Dieu demandait. Il le faisait parfaitement. Rappelez-vous, lorsqu'il disait dans les Béatitudes de Matthieu 5, il disait « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus pouvait s'attribuer ce titre de fils de Dieu parfaitement. Dans toutes les fibres de son corps, il était fibre. Il était fils de Dieu, excusez. Jésus ne prenait pas la place au-dessus de Dieu. Il était plutôt soumis à lui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mais Jésus a de toute éternité obéi à son Père. Il a toujours obéi à son Père. Le Fils n'en est pas moins Dieu. C'est une question de rôle. Le Fils fait ce qu'il a à faire comme Dieu. On retrouve ce principe-là à bien des endroits. Dans l'Assemblée, vous avez des anciens, vous avez des diacres, vous avez des responsables, vous avez des jeunes croyants qui arrivent. Tout ce beau monde-là sont tous sur le même pied d'égalité. Ils ont des rôles différents. Dans le mariage, l'homme et la femme, c'est deux personnes égales qui ont des rôles différents. Dieu le Fils, Dieu le Père, c'est deux divinités, c'est un Dieu, et ça c'est difficile à comprendre, un Dieu qui ont des rôles différents. Et le rôle que le Fils accomplit est parfait. Il montre une parfaite soumission à Dieu. Et ce qui est important pour Dieu à ce moment-là, c'est d'être en parfaite harmonie avec le Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et il le fait aussi pareillement. C'est-à-dire que ce qu'il voit faire et ce que le Père lui demande de faire, il le fait parfaitement. Il exécute la volonté du Père. Et la résultante de Dieu, c'est l'amour parfait que Dieu a envers son Fils. Et à cause de cela, Dieu va lui révéler des choses encore plus étonnantes. Il va aller plus loin encore. Il va lui montrer des œuvres étonnantes qui dépassent notre entendement. Et cette union-là, que le Fils soit obéissant au Père, permet une connexion. Ça me fait penser un peu à mon épouse, Hélène. Lorsque je l'ai connue, elle me parlait de sa grand-mère. Et anciennement, quand j'étais plus jeune, c'était l'habitude d'aller toutes les fins de semaine aller voir les grands-parents. J'ai fait ça aussi dans ma famille, puis ils faisaient ça aussi dans leur famille. Et toutes les fins de semaine, ils allaient voir les grands-parents. Et lorsque Hélène allait voir sa grand-mère, elle s'installait au comptoir avec sa grand-mère, puis là, la grand-mère faisait des galettes à amelas, puis là, ma femme disait que c'était les meilleures galettes à amelas au monde. Et puis, elle reproduisait, elle faisait la même chose. Il s'installait au comptoir, elle voyait sa grand-mère brasser la pâte, faisait la pâte aussi, la même chose. Et la grand-mère, qui regardait ça avec joie, elle disait, « Wow, elle fait la même chose que moi. Et je vais te montrer maintenant le gâteau au chocolat. Et je vais aller plus loin encore. Parce que tu es là, tu m'accompagnes, parce que tu fais la même chose que moi. Dieu a cette même vision de son Fils. Je peux te faire confiance. Tu fais exactement ce que je te demande de faire. Tu es parfait dans toute ton œuvre. Tu fais exactement. Jusqu'au verset 30 de notre texte, que l'on ne lira pas, mais vous lirez chez vous probablement, Jésus parle de l'œuvre que le Père a donnée au Fils à faire. La confiance que le Père s'établit avec le Fils provient de l'obéissance que le Fils a envers le Père. Pour nous, le fait que Christ fasse seulement ce qu'il va faire du Père, nous amène à deux constats. Premièrement, nous sommes garantis de voir la personne de Dieu en Christ. Rien, absolument rien de ce que Christ a fait vient d'une impulsion humaine. Ce n'est pas la volonté de Christ lui-même. Il dit, je vais faire ça parce que ça me tente. Non, je vais faire ce qu'il a fait, s'il l'a fait parce que le Père lui a demandé de faire, et ça a été toute sa vie. Donc, lorsque vous lisez ce que Christ a fait, vous lisez ce que Dieu a voulu nous montrer. Exactement, parfaitement, à 100%. Et le deuxième constat, c'est qu'on profite de l'amour de Dieu. Parce qu'il découle de l'amour de Dieu, c'est l'amour du Fils. L'amour que Dieu a envers nous vient du fait qu'il a aimé le Fils. Nous ne sommes pas le premier amour de Dieu. Le Fils est le premier amour de Dieu. Et c'est par cet amour-là que nous sommes aimés. Si vous enlevez l'amour du Fils dans nos vies, vous revenez à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. La différence, c'est l'amour que le Père a envers le Fils. Et il nous voit à travers cet amour-là. Quelle grande chose d'avoir l'amour du Fils. Lorsqu'on voit Jean 3,16, il nous dit qu'il nous a donné le Fils, il nous a donné accès à l'amour du Fils dans nos vies. Lorsque nous venons et nous célébrons ce matin, nous parlons au Père, comme notre frère Stéphane a dit la semaine passée, nous parlons au Père du Fils, car il a fait, c'est l'objet de toute son affection. Vous désirez avoir une vie chrétienne épanouie, j'espère. Vous ne voulez pas avoir une vie chrétienne plate, morne, qui n'a pas de signification. Bien, la relation entre le Père et le Fils est le miroir de la relation entre Christ et nous, ses enfants. Et j'aimerais apporter en lien deux textes qui parlent de l'obéissance. L'obéissance est le seul chemin qui amène au véritable amour. On voit la relation entre le Père et le Fils. Et on voit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il va nous dire, et Christ va nous dire dans Jean 15, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, je ne puis rien faire. Si vous enlevez Christ de ma vie, je ne vaux plus rien. Il y avait une petite note dans les pages que j'ai écrites dans ma Bible qui disait à un moment donné, la personne qui a tout et qui a Christ a la même chose que celui qui n'a rien et qui a Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il va, OK? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Ce que Dieu nous dit à quelque part, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, une parole qui demeure en moi, c'est que j'en prends note et je l'applique dans ma vie. Et comme le Fils, vous voyez, il faisait ce que le Père désirait, nous avons la même responsabilité. Car le Père aime le Fils. Et Dieu va nous dire, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Nous avons l'amour du Fils. Vous demeurez dans mon amour. Et finalement, il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera. Et nous, il va dire... Ça ne marche pas. OK. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous la relation Père-Fils, Christ et ses enfants? Nous avons cette même responsabilité. Comme Christ a accompli son œuvre parfaitement, il a été parfaitement obéissant, nous, à quelque part, nous devons aller vers ce chemin-là. Si on regarde le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit un ordre. On voit un ordre et on voit plus loin que l'émotion. On y voit un engagement. L'amour, c'est un engagement. L'amour comme émotion, ouvrez votre TV et regardez Hollywood. Hollywood, il est parfait, il négocie très bien avec ça. Mais l'amour, c'est beaucoup plus qu'une émotion. C'est aussi un engagement. Un engagement à l'obéissance. Un engagement à obéir à ce que Dieu nous demande. Si j'aime vraiment une personne, si je l'aime vraiment, non pas si je m'aime moi, mais si j'aime une autre personne, je serai prêt à m'engager. D'ailleurs, les vœux du mariage sont un peu dans ce sens-là. Je m'y engage. Plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Ce qu'ils voient, c'est des textes de loi. Je discutais avec un confrère de travail, puis ce confrère de travail-là, il dit « Jamais je vais me marier. Parce que si je viens qu'un jour à me séparer, ça va me coûter trop cher. » Tu n'as rien compris de l'engagement. C'est beaucoup plus que de l'argent. C'est un cœur qui s'engage. L'engagement, m'engager, c'est d'abord l'abandon de soi. L'abandon de ses droits, de ses privilèges pour l'autre. Pour obéir à ce que Dieu demande, obéir à ce que l'autre demande. Voici l'engagement que Dieu nous demande. Un peu comme dans les conflits, Michel me disait, nous faisait mention dans des conflits de couple. Il disait, qu'est-ce qui est important lorsqu'il y a un conflit? Que tu gagnes ton point ou que ton conjoint soit heureux ou heureuse? Et c'est là, c'est ça qui devrait motiver. Non pas que je gagne mon point, mais que l'autre personne soit heureuse ou heureux. Pour Christ, ce qui était important, c'est que son Père soit respecté, aimé, obéi. Cela remplissait la totalité de sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui remplit la vôtre? Jusqu'où vous seriez prêt à aller à obéir à Dieu, à l'aimer? Chacun de nous, on a une version de l'obéissance. Moi, j'ai une version de l'obéissance, OK? Je peux me permettre certaines choses, puis j'ai pas l'impression d'avoir désobéi. Mais Dieu en a une version, lui, de l'obéissance. Et on n'ira pas dans le texte, vous irez, vous, parce que vous avez votre responsabilité. Vous devez aussi ouvrir la parole, puis vous devez chercher. Dans Éphésiens 5, chapitre 5 d'Éphésiens, on voit à quelque part comment est-ce que Dieu nous demande de faire pour obéir. Le Éphésiens 5, pour vous rappeler, c'est le fameux texte que tout le monde connaît par cœur. Femmes, soyez soumises à votre mari. Hein? On voit tout ça. Là, tu sais. De la minute qu'on dit Éphésiens 5, ah oui, le fameux verset. Femmes, soyez soumises à votre mari. Naturellement, personne ne voit mari aimer vos femmes. Là. Ça, c'est un peu négligé. Mais il y a un autre texte, une autre portion du chapitre 5 qui est encore plus négligée. Les premiers mots. Soyez les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu. Ouh! Comment je vais faire? Comment je vais faire pour imiter Dieu? Bien, je devrais m'y engager. Et déjà au départ, si vous dites au Seigneur, demain matin en vous levant, ou ce soir avant de dormir, « Seigneur, je m'engage à t'obéir. » Déjà, vous aurez fait un pas. Déjà, vous serez sur le chemin pour l'obéissance. Et par la suite, lorsque le Seigneur va dire « tu roules trop vite », c'est vrai, tu as raison, Seigneur. « Tu t'es mis en colère, là. » C'est vrai, Seigneur. Déjà que vous vous engagiez à obéir à Dieu, c'est déjà énorme. Prenez la version de Dieu au niveau de l'obéissance. L'amour que j'ai pour Christ est directement lié à mon obéissance. C'est notre responsabilité. Pas facile, pas facile. Mais c'est quand même notre responsabilité. Et Dieu nous amène à le faire tous les jours, à s'y engager à tous les jours. À un moment donné, dans ma vie, lorsque j'allais travailler, je faisais 10 minutes de voiture avant d'aller travailler. Puis, je priais, puis je me disais, « Seigneur, aujourd'hui, fais en sorte que mes patrons soient satisfaits de moi. » Mes patrons ou les personnes que je côtoie soient satisfaits de moi. Fais en sorte que mes patrons soient... non, non, non. C'est toi qui dois prendre la responsabilité de cela. Dieu peut placer les choses, mais c'est toi qui vas décider de t'engager à ce que ton patron soit satisfait. Il y a une part que Dieu doit faire, mais il y a une part que tu dois faire aussi. Et c'est ça l'engagement. C'est ma responsabilité de chercher à découvrir ce qui m'empêche de l'aimer mieux, c'est-à-dire de lui obéir plus. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous, à tous les jours, obéir à Dieu. Ça a l'air bien niaiseux, ça a l'air... Mais c'est quand même ça à tous les jours. Merci Seigneur pour... Merci pour ton obéissance parfaite. Nous avons vu Seigneur que ton obéissance a amené à un amour parfait du Père. Et de cet amour a découlé, Seigneur, que tu nous as aimés aussi. Ton Fils nous a aimés. Ton Fils, Seigneur, s'est donné au complet, parfaitement, pour que tu sois honoré et glorifié. L'amour qui existe entre le Père et le Fils est parfait. Mais permets, Seigneur, que chacun de nous, on ait le désir profond, du plus profond de nos cœurs, que l'on soit sur ce chemin d'obéissance que tu mets devant nous. Nous sommes privilégiés, Seigneur, d'avoir cette opportunité de pouvoir t'obéir. Le monde ne l'a pas. Le monde ne le connaît pas, cette opportunité-là. Mais tu nous donnes de pouvoir le faire. Merci. Merci infiniment. Et permets, Seigneur, que l'on ait ce respect, que l'on ait ce désir de t'obéir à tous les jours, pour ta gloire, pour ton nom, pour l'avancement de ton royaume et pour que, finalement, nous ayons une vie épanouis, toi et nous, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.